68. Tout était terminé. Les ultraviolets avaient rempli leur rôle. Officiellement, d'après la complexe documentation filmée qui accompagnait l'étoile lointaine lorsque Trévise en avait pris le commandement sur Terminus, la lumière UV était là précisément pour des raisons de désinfection. Trévise soupçonnait toutefois que la tentation demeurait toujours, et que d'aucuns devaient y céder parfois, d'utiliser les UV pour acquérir un bronzage élégant dans le cas de ceux qui venaient de mondes où un teint bronzé était de mise. La lumière ultraviolette demeurait néanmoins désinfectante, quel que soit son emploi. Ils regagnèrent l'espace, et Trévise manœuvra pour les approcher le plus possible du soleil de Melpomenia, tout en restant dans les limites d'une chaleur acceptable, faisant tourner le vaisseau sur lui-même pour obtenir que la surface entière de la coque fût baignée d'ultraviolet. Finalement, ils récupérèrent les scaphandres abandonnés dans le sas et procédèrent à leur examen jusqu'à ce que Trévise s'en jugeât satisfait. « Et tout ça, pour de la mousse ?» dit enfin Joie. « C'est bien ce que vous avez dit, Trévise. De la mousse ?»«
J'appelle ça de la mousse parce que c'est ce que ça m'a évoqué. Mais je ne suis pas botaniste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est d'un vert intense. » Et peut sans doute se contenter de fort peu d'énergie.
Pourquoi fort peu?
Les lichens sont sensibles aux ultraviolets et ne peuvent croître ni même survivre sous un éclairage direct. Les spores de cette mousse sont répandues partout, mais elles ne se développent que dans les recoins, les fissures des statues, la face inférieure des structures, se nourrissant de l'énergie des photons réfléchis chaque fois qu'elles peuvent disposer d'une source de gaz carbonique.
Je crois comprendre que vous les jugez dangereuses.
Ça se pourrait bien. Si certaines des spores étaient restées collées sur nous ou étaient entrées avec nous, elles auraient trouvé toute la lumière voulue sans ultraviolet nocif. Elles auraient trouvé de l'eau en ample quantité ainsi qu'une inépuisable source de gaz carbonique. Il ne constitue jamais que 0,03% de notre atmosphère, remarqua Joie. Une énorme quantité pour ces spores. Et 4% de l'air que nous expirons. Imaginez qu'elles se développent dans nos narines, sur notre peau, qu'elles décomposent et détruisent notre nourriture, qu'elles produisent des toxines mortelles pour nous, même si nous nous échinions à les tuer, mais en laissions échapper quelques-unes. Ce serait suffisant pour que, emportées par nous sur une autre planète, elles l'infestent et de là se répandent sur d'autres mondes. Qui sait alors les dommages qu'elles seraient susceptibles d'y provoquer?
Joie hocha la tête. « La vie n'est pas nécessairement dangereuse parce qu'elle est différente. Vous êtes si facilement prêt à tuer. »«
Là, c'est Gaïa qui parle, » dit Trévise.
« Bien entendu, mais je pense que ça se tient malgré tout. La mousse est adaptée aux conditions de ce monde, de même qu'elle utilise la lumière en faible quantité, mais qu'elle est tuée par un excès de lumière. Elle utilise d'infimes bouffées de dioxyde de carbone, mais pourrait être détruite par de larges quantités de ce gaz. Il se pourrait qu'elle soit incapable de survivre dans un autre environnement que celui de Melpomenia.
Vous seriez prête à prendre le risque ?
Joie haussa les épaules. « Bon, ne soyez pas sur la défensive. Je vois votre point de vue. » Étant un isolat, vous n'aviez sans doute guère d'autre choix que d'agir ainsi.
Trévise aurait bien répondu, mais Phalum intervint de sa voix aiguë, dans sa propre langue.
Trévise se tourna vers Pellorat.
Que dit-elle?
Phalum est en train de dire, toutefois, comme si elle s'était souvenue trop tard que sa langue n'était pas facile à comprendre, Phalum reprit. Djembi, était-il là où vous êtes allé?
Les mots étaient prononcés avec soin. Et Joie s'épanouit.
Ne parle-t-elle pas bien le galactique? Et presque en un rien de temps.
À voix basse, Trévise avertit la jeune femme. Je risque de m'en mêler les pinceaux si j'essaie. Mais expliquez-lui, vous, que nous n'avons pas trouvé de robots sur la planète.
Je lui expliquerai, intervint Pellorat. Viens, Phalum.
Il passa doucement le bras autour des épaules de l'adolescente.
« Viens dans notre chambre et je te donnerai un nouveau livre à lire. »« Un livre sur Djembi ?»« Pas exactement. »
Et la porte se referma sur eux. « Vous savez ?» commença Trévise en les regardant sortir d'un œil impatient. Nous perdons notre temps à jouer les nounous avec cette gosse.
Le perdre? En quoi cela entrave-t-il votre quête de la terre, Trévise? En rien. Jouer les nounous instaure une communication, dissipe la peur, apporte de l'amour. N'est-ce rien?
Encore Gaïa qui parle.
Oui. Alors, voyons les choses de manière pratique. Nous avons visité 3 des anciens mondes spatiaux sans résultat tangible.
Trévise acquiesça. Certes.
En fait, nous avons découvert que chacun était hostile, n'est-ce pas? Sur Aurora, c'était des chiens sauvages, sur Solaria, des humains étranges et menaçants, sur Melpomenia, un dangereux lichen. Apparemment donc, dès qu'une planète est livrée à elle-même, qu'elle abrite ou non des hommes, elle devient un risque pour la communauté interstellaire. Vous ne pouvez pas en faire une règle générale. 3 sur 3 constitue sans aucun doute une proportion impressionnante.
Et qui vous impressionne beaucoup, Joie?
Je vais vous le dire. Si vous voulez bien m'écouter avec un esprit ouvert. Si dans la galaxie, vous avez des millions de mondes en interaction, comme c'est bien entendu le cas, et si chacun d'eux est exclusivement composé d'isolats, comme c'est le cas également, alors sur chaque planète, l'espèce humaine est dominante et peut imposer sa volonté sur les formes de vie non humaines, sur l'assise géologique et même sur ses semblables. La galaxie se trouve donc être une galaxie extrêmement primitive qui fonctionne de manière tâtonnante et bancale. La simple esquisse d'une unité. Voyez-vous ce que je veux dire?
Je vois ce que vous cherchez à expliquer. Mais ça ne veut pas dire que je vais partager votre opinion quand vous en aurez terminé.
Je vous demande simplement de m'écouter, que vous soyez d'accord ou pas à votre guise, mais écoutez-moi d'abord. La seule manière qu'aura la galaxie de fonctionner, c'est en étant une proto-galaxia. Et moins elle sera proto et plus elle sera galaxia, mieux cela vaudra. L'Empire galactique a constitué une tentative pour instaurer une proto-galaxia forte, et lorsqu'il s'est effondré, la situation a rapidement empiré, en même temps que naissait une tendance constante à renforcer ce concept de proto-galaxia. La Confédération de la Fondation représente une tentative de cet ordre, de même que l'Empire du Mulet, de même que l'Empire qu'envisage la Seconde Fondation. Mais même s'il n'avait pas existé ces empires ou ces confédérations, même si la galaxie tout entière était plongée dans la tourmente, les connexions subsisteraient, chaque monde demeurant tout de même en interaction avec les autres, même si c'est de manière hostile. Ce qui formerait, en soi, une sorte d'union, si bien qu'on ne connaîtrait pas encore la pire hypothèse.
Et quelle serait donc la pire hypothèse?
Vous connaissez la réponse, Trévise. Vous l'avez constaté. Qu'une planète habitée par l'homme s'effondre totalement, devienne totalement isolée, qu'elle perde toute interaction avec les autres mondes humains, et la voilà qui se développe de manière maligne.
Comme un cancer?
Absolument. N'est-ce pas le cas de Solaria? Ce monde s'oppose à tous les autres. Et à sa surface, chaque individu également s'oppose à tous ses semblables. Vous l'avez constaté. Et que l'être humain disparaisse complètement et la dernière trace de discipline disparaît avec lui. La loi du chacun pour soi devient la règle, comme avec les chiens, et se réduit à une simple force élémentaire, comme avec le lichen. Vous voyez donc, je suppose, que plus on approche de Galaxia, meilleure est la société.
Alors pourquoi donc s'arrêter en chemin?
Durant quelques instants, Trévise la fixa sans un mot.
Je suis en train d'y réfléchir.
Mais pourquoi supposer que le dosage fonctionne à sens unique? Que si avoir un peu de quelque chose c'est bien, en avoir beaucoup c'est mieux, et qu'avoir tout c'est l'idéal? N'avez-vous pas vous-même remarqué que la mousse pouvait s'être adaptée à de très faibles taux de gaz carbonique et qu'une abondance de ce gaz pouvait fort bien la tuer? Un homme de 2 mètres se porte mieux qu'un homme d'1 mètre de haut,
mais il est également mieux dans sa peau qu'un homme de 3 mètres. Une souris ne se portera pas mieux d'avoir la taille d'un éléphant. Elle n'y survivrait pas, pas plus qu'un éléphant réduit à la taille d'une souris.
Il existe une taille naturelle, un degré naturel de complexité, un optimum pour toute chose, que ce soit une étoile ou un atome. Et il en va certainement de même des êtres vivants et des sociétés vivantes.
Je ne dis pas que l'ancien empire galactique était l'idéal, et je n'ai pas de mal à voir les défauts inhérents à la Confédération de la Fondation. Mais je ne suis pas prêt d'admettre que puisque l'isolation totale est un mal, l'unification totale serait un bien. Les extrêmes sont peut-être également horribles, et un bon vieil empire galactique, malgré ses imperfections, représente peut-être le moindre mal.
Joie hocha la tête.
Je me demande si vous y croyez vous-même, Travis. Allez-vous me soutenir qu'un virus et un homme sont également insatisfaisants et voudraient bien tendre vers un juste milieu, comme une moisissure?
Non, mais je pourrais vous soutenir qu'un virus et un surhomme sont également insatisfaisants et voudraient tendre vers un juste milieu tel qu'un homme ordinaire.
Il est toutefois vain de discuter. Je tiendrai ma solution quand j'aurai trouvé la Terre. Sur Melpomenia, nous avons découvert les coordonnées des 47 autres mondes spatiaux.
Et vous allez les visiter tous?
Un par un, s'il le faut.
En risquant des dangers sur chacun?
Oui. C'est la rançon à payer pour trouver la Terre.
Pellorat venait d'émerger de la cabine où il était entré avec Phalum et semblait sur le point de dire quelque chose lorsqu'il se trouva pris dans le rapide échange entre Joie et Trévise. Il les regarda tour à tour se renvoyer la balle. « Et combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Joie Gaïa.
« Le temps qu'il faudra. Et l'on pourrait fort bien trouver ce que l'on cherche au prochain que nous visiterons. »
Ou sur aucun d'entre eux.
Ça, on ne peut pas le savoir d'avance.
Enfin, Pellorat parvint à placer un mot. Mais pourquoi chercher, Golan? Nous avons la réponse!
Dans un mouvement d'impatience, Trévis agita la main en direction de Pellorat, puis il retint son geste, tourna la tête et dit ébahi:
Hein? J'ai dit que j'avais la réponse. J'ai déjà essayé au moins 5 fois de vous le dire sur Melpomenia, mais vous étiez tellement pris par ce que vous faisiez.
« Quelle réponse avez-vous? De quoi parlez-vous?
De la Terre. Je crois que nous savons où elle se trouve. »